Papin. Je suis donc le maire de la ville de Baugé-en-Anjou, dans une commune à l'est du département, 12 000 habitants, 26 000 hectares de surface, 30% en forêt. Et je suis aussi premier vice-président du conseil départemental, en charge des finances et du numérique et du tourisme.
On va revenir sur ce qui s'est passé cet été avec malheureusement les incendies qui ont touché la commune. Alors déjà, comment se déroulait l'été de Baugé avant les incendies ?
Comme tous les Français, on était en période estivale. Sur le Baugeois, nous avions un certain nombre d'animations, fête populaire avec les 600 ans de la bataille du Vieil Baugé, donc qui avait mobilisé beaucoup de forces, beaucoup de bénévoles. Nous étions aussi dans les concerts d'été, gratuits, itinérants. Nous étions également dans le Festival de l'Opéra, donc on était dans une démarche très, très estivale. Et ça, c'était jusqu'au 8 août à 13h. À partir de 13h, ça a basculé. J'ai reçu un appel téléphonique de la directrice, la secrétaire générale de la préfecture, qui me laisse un message en disant, voilà, allez donc voir sur clé ce qui se passe, sur la commune déléguée de clé, parce qu'on nous signale un incendie important. Et donc, j'ai à peine le temps de monter dans ma voiture que je reçois un autre coup de fil d'un maire délégué qui me confirme qu'il y a un problème. Et donc, voilà, et il y a donc un problème. Je vais donc sur place et là, je découvre l'ampleur du phénomène avec un incendie qui est totalement hors de contrôle. Les pompiers qui sont là, une quarantaine s'affairent de tous les côtés et décrivent tous un incendie hyper violent. On essaie de gérer, de s'organiser. Et à 16h, je déclenche le plan communal de sauvegarde qui nous permet de mobiliser les espaces publics, les équipements publics, qui permet aussi de prendre des arrêtés pour restreindre la circulation, etc. Donc j'enclenche le plan communal de sauvegarde sans savoir qu'il faudra en fait un mois pour que l'incendie soit totalement et techniquement considéré comme éteint. Et pendant 8 jours, ça va être intense. Et voilà un petit peu la situation. C'est quelque chose auquel on ne s'entendait pas, bien évidemment. Le lundi a été une journée difficile. Le mardi a été une journée encore plus difficile parce que, on se disait le mardi, tout le monde va s'organiser. On va en voir le bout. Et en fait, le feu prend de l'ampleur. Il avait débuté dans l'ancien camp de déminage de Bourgard et on entend les munitions qui explosent. Il y a des moments, c'est 10 explosions à l'heure, quoi. Et donc, ça ajoute au stress. Les habitants commencent à perdre pied un peu. On commence à parler d'évacuation. Le général qui commande le SDIS 49 me dit « on va pas y arriver seul. On a des renforts qui arrivent de toute la France parce que ça va prendre des proportions. » Et on commence à me dire « il va falloir, monsieur le maire, que vous fassiez des choix sur un certain nombre de priorités. » Donc au départ, on essayait d'éteindre l'incendie dans les bois, dans les forêts. Après, on commençait à se poser la question de savoir si on devait protéger les exploitations. Après, la question était de savoir s'il fallait protéger les maisons d'habitation. Donc au début, on dit oui à tout. Et puis à un moment donné, on fait évacuer une partie des habitants de Clé. Et on m'annonce que sur Volandry, le feu, il est à 200 mètres du village et qu'il va peut-être falloir aussi évacuer la commune déléguée de Volandry. Donc voilà, tout ça s'enchaîne. Le mardi, c'est difficile. J'assiste totalement impuissant au basculement du feu qui traverse la route départementale qui nous relie Baugé à la Flèche. Je vois le feu à droite et d'un seul coup, ça crie un peu partout pour me dire le feu est passé, quoi. Et j'ai pas vu passer le feu, quoi. Ça s'est fait, je sais pas comment. Et en fait, on commence à comprendre que le feu lui-même s'alimente, qu'il génère lui-même le feu. Et ça, on se sent vraiment petit, impuissant. Le mercredi, ça continue. Il y a des foyers qui s'allument, qui partent un peu partout. Et on commence à me dire, on est à le lundi soir, on parlait d'une centaine d'hectares. Le mardi soir, on commence à parler de 250, 300 hectares. Le mercredi soir, on est à plus de 600, 800, et puis à un moment donné, on finira à 1400 hectares, quoi. On avait 40 pompiers au début, on finira au plus fort de l'incendie avec plus de 600 pompiers sur place. Ça veut dire que pour qu'il y ait 600 pompiers sur place, il faut qu'il y en ait peut-être 1000 qui sont mobilisés sur l'ensemble du département. Et puis, on voit arriver des renforts un peu de partout, quoi. Et là où j'ai commencé à comprendre les difficultés, c'est le mardi soir où le général me dit « moi j'ai 250 pompiers à loger ce soir, on les met où ?» Ma réponse, c'est de dire, bah, j'ai 40 lits pour l'instant. Bah, il me dit, faut m'en trouver 200. Et donc, on lance un appel sur les réseaux et on a 250 matelas, enfin 400 qui arrivent. Les gens nous les apportent et on voit une solidarité exceptionnelle se mettre en mouvement. On voit des gens, on avait mis en place des gardes-barrières pour gérer la circulation. On a des gens qui font des heures à plus en finir, hein. C'est des heures continues. Ils font 12 heures de barrières pour permettre aux pompiers d'intervenir. Les agriculteurs ne dorment plus, hein, ils se relaient nuit et jour pour apporter de l'eau, pour aider les pompiers. Les pompiers interviennent selon une stratégie très éprouvée et qui, au départ, n'est pas trop comprise par les particuliers que nous sommes, parce qu'on veut qu'ils éteignent l'incendie, mais il y a des endroits où c'est pas possible de l'éteindre. Et puis, on voit des scènes bien particulières. Moi, j'étais avec un commandant pour en repérage plusieurs fois par jour au début. Et on arrive devant un stock de bois qui était en train de brûler. Et là, le commandant s'arrête et dit, on passe pas. J'ai commencé à on passe pas. Il dit, on passe pas, c'est pas possible. Et j'ai compris quelques minutes après pourquoi on passait pas. C'est que le feu était en train de dévorer la chaussée et il est passé sur 5 mètres de large, quoi. Voilà. Donc beaucoup d'événements qui se bousculent. Jusqu'au lundi 15 août, où là c'est encore présent et on pensait se reposer et d'un seul coup de fil en disant il y a un nouveau départ de feu, ça repart sur Vaulandry, donc on retourne voir et voilà. On a essayé pendant cette semaine qui a été lourde et difficile de gérer au mieux. On a eu beaucoup de bénévoles, tout le monde a été formidable, il y a eu une solidarité exceptionnelle qui s'est mise en place et voilà où nous en sommes. Donc un mois après, le 8 septembre, on me dit, monsieur le maire, le feu est éteint. Il a fallu un mois pour qu'il soit totalement éteint. Donc ça, c'est quelque chose aussi de lourd. Et donc on me dit maintenant, il va falloir engager la deuxième étape, sortir les bois. On a 2 mois pour les sortir parce que sinon ils vont être contaminés, donc invendables, et surtout ils vont risquer de contaminer la forêt qui restait saine. Il y a 2 mois pour les sortir, donc on réunit tous les propriétaires au mois de septembre avec l'ONF, monsieur le préfet, les pompiers, la gendarmerie, le CNPF, le Centre National des Propriétaires Forestiers, et puis on échafaude un plan d'évacuation, et là on me dit, oui, mais pour sortir le bois, il faut des chemins. Les chemins sont totalement défoncés à cause de l'incendie, puis peut-être un défaut d'entretien qui remonte à des décennies. Et donc la commune s'engage à remettre les chemins en état dans un temps record, aidée par les exploitants forestiers. Et puis une deuxième réunion, on apprend que les bois sont vendus à un prix qui est assez raisonnable, ce qui était quand même notre crainte, et que l'exploitation va débuter à partir du 15 octobre. Et on apprend qu'il y aura 150 000 mètres cubes de bois qui vont être sortis. Et nous, on continue à travailler avec l'ONF sur notre propriété, la propriété communale, parce que dans la forêt qui a brûlé, il y a aussi une partie communale. Et là, on vient de m'annoncer que l'essentiel, c'est-à-dire moins de 2 mois après, l'essentiel des bois ont été évacués et que maintenant va venir le temps de la replantation, ce qui va être un autre temps. Et puis parallèlement, on mène aussi, je saisis moi les services de l'État, de la situation du camp de Bourgard, où je m'étonne qu'effectivement on ait encore des bombes et des obus dans ce camp. Et donc là, on a une première réunion avec les sous-préfets, la visite du préfet sur place. Et il y a quelques semaines, le centre de déminage de Nantes est venu faire un repérage. Donc on attend, on a encore un autre sujet qui s'ouvre. Voilà, résumé en quelques minutes ce qui s'est passé durant cet été.
Donc là, ce que je comprends, en fait, c'est que c'est un événement qui a duré, on va dire, entre guillemets, uniquement un mois, mais il y a des répercussions qui vont, se faire ressentir encore pendant plusieurs années, j'imagine.
Oui, et je n'intègre pas dedans la replantation de la forêt, quoi. Alors, soit elle va se régénérer naturellement, soit il va y avoir des plantations à nouveau. Oui, c'est là, vous voyez, on est encore dans l'incendie, nous. On est encore dans l'incendie. Donc, c'est ça qui est un peu compliqué. On a essayé d'aider, d'accompagner. On a mis en place des permanences dans la mairie déléguées de clés où on a un agent qui renseigne les propriétaires. On a accueilli pendant 6 mois une permanence du CNPF pour apporter la réponse technique, hein, parce que ça paraît simple comme ça à entendre ou à dire, Mais derrière, on ne fait pas n'importe quoi quand on exploite du bois, quoi. Il faut créer des plateformes de retournement pour que les camions grues puissent passer. Il faut stocker, il faut préserver, il faut stabiliser. Enfin, il y a tout un travail. Et même la ville est concernée puisqu'on a une voie verte qui a été incendiée sur 3 km. Et donc, on a 6 km de bois à abattre, à sortir, parce qu'ils vont, ils sont dangereux pour la population, quoi. Donc voilà un petit peu la situation. Donc c'est quelque chose qui ne laisse pas insensible. Le point positif, c'est qu'il y a eu un formidable élan de solidarité qu'il a fallu aussi gérer parce que les gens voulaient donner, voulaient accompagner, voulaient faire quelque chose. Donc voilà. Donc on a géré, ça s'est plutôt bien passé. Et puis on a eu aussi des très bonnes relations avec les pompiers qui intervenaient. Hein. On avait la colonne de l'Île-de-France qui est restée une quinzaine de jours sur place, qui nous a accompagnés, qui nous a aidés. Enfin bon, voilà. On a eu des temps humains très forts, quoi. On sentait qu'il y avait quelque chose, mais les gens étaient beaucoup touchés. Hein. Moi, j'ai vu des gens pleurer parce que je leur demandais de quitter leur maison, quoi. Je comprends. C'est des décisions qui sont un peu difficiles. Hein, quand le général me dit, monsieur le maire, qu'est-ce qu'on fait là? On laisse brûler au risque que les sapeurs-pompiers laissent leur peau. Bah, je dis non, la vie des sapeurs-pompiers est plus importante. Donc non, il faut se retirer, quoi. Et donc on a fait des choix. Heureusement, le feu a pu être éteint dans ces limites-là, mais il y avait des maisons sur lesquelles on n'avait pas d'autre choix, quoi. Parce que en fait, le feu était tellement violent qu'on ne pouvait plus l'arrêter, quoi. Moi, j'ai vu un feu naissant. J'étais en repérage. Parce que, comme je disais tout à l'heure, je faisais des repérages au début 3 fois par jour, à la fin 1 fois par jour, et j'ai vu un feu débuter dans des fougères, et j'étais à 10 mètres, et le pompier me dit « non, bougez pas, on s'en va ». Je dis « comment on s'en va ?» Je dis « on peut pas l'éteindre ?»« Non, on va pas l'éteindre, vous allez voir ». 3 minutes après, c'était un brasier qui faisait plusieurs centaines de degrés, et on pouvait pas rester à côté, quoi. C'est une violence qu'on ne s'imagine pas. Moi, je m'imaginais pas ça. Je pensais qu'on pouvait toujours maîtriser la force de l'incendie, mais pas du tout. Et je vous dis, le feu, en fait, c'est ça qui est impressionnant. Il s'autogénère, il se renforce lui-même, quoi. Et vous pouvez, alors, il n'y a qu'une chose qui peut l'arrêter dans un premier temps, c'est les lâchers aériens. On a eu la chance d'avoir des renforts aériens. Et en fait, le système, quand c'est bien fait, c'est généralement très bien fait. Il y a un effet de souffle qui accompagne le retardant qui est, et là, ça permet aux pompiers de gagner de l'espace, quoi. Sinon, le seul moyen de l'arrêter, c'est ce qu'on a fait, hein, ça a été de faire des pare-feux. On a pris la décision d'abattre 100 mètres de large dans la forêt communale pour empêcher le feu d'arriver sur Baugé, quoi. On en était arrivé là, quoi. Ça devenait un peu compliqué, quoi.
Et c'est vrai que c'est des événements auxquels on n'est pas trop habitué, nous, dans la région. C'est vrai que les feux de forêt, c'est plus dans le sud, etc. Donc,
oui.
C'est vrai que j'imagine qu'en tant que maire, je pense que vous n'aviez pas trop signé pour ce genre de choses quand vous avez signé. Donc, est-ce qu'on est vraiment préparé à ce genre d'événement ou est-ce qu'il y a une part d'improvisation? Comment ça se passe?
On n'est jamais préparé à ça. Ce qu'il faut, c'est que ça fait partie de notre mission de maire, hein, notre fonction de maire. On est là pour être. On est là aussi pour protéger la population. Et moi, je me suis senti aussi porté par cette mission. Le rôle d'un maire, c'est de protéger sa population, quoi. Et le territoire à la tête duquel il est élu, quoi. Donc ça fait partie de notre mission. Alors on n'est pas forcément préparé parce que c'est difficile de se préparer à des événements comme ça, quoi.
On va revenir un petit peu sur l'après. Est-ce que vous avez pris des mesures particulières afin d'éviter que ce genre d'accident se reproduise dans les années à venir?
Au niveau de la côté de commune, on va réaliser une charte forestière qui va permettre d'accompagner les propriétaires. Donc moi, je pensais que c'était pas utile au début, et quand je vois effectivement l'ampleur des dégâts, je me dis que c'est indispensable. Donc on va réfléchir, on va proposer des solutions d'accompagnement aux propriétaires. On va travailler sur l'accès au site, mais là, en refaisant tous nos chemins communaux, on a déjà réglé une grosse partie du problème. Et puis après, mon action, c'est aussi de sensibiliser les services de l'État, mais tous ceux qui étaient là l'ont bien compris, c'est facile de les convaincre. Comme quoi, il faut mettre en place des moyens de prévention, des caméras de surveillance pour déclencher, parce que l'incendie a été vu de la Sarthe, si vous voulez, avant qu'il soit signalé au SDIS du 49. Parce que la Sarthe est équipée en caméras de surveillance. détection incendie. Donc ça peut permettre de voir ça. Et puis après, bah oui, faut sensibiliser les propriétaires. Maintenant, après, il y a peut-être des espaces, des pare-feux à créer. Mettre aussi de la prairie naturelle pour faire des pare-feux naturels. Mais la solution ne consiste pas forcément à exclure une typologie d'arbres ou une essence d'arbres. Il n'y a pas de solution, je dirais, miracle ni évidente. C'est un mix de tout. C'est à la fois d'avoir des pare-feux naturels, d'avoir des sentiers d'accès suffisamment large pour que les pompiers puissent manœuvrer. C'est de sensibiliser les propriétaires pour qu'il y ait un meilleur entretien dans certains endroits. C'est un ensemble. C'est aussi bien identifier les réserves d'eau qu'on a à proximité. Voilà, ce sont des choses que nous, on doit faire aussi, quoi. Donc il y a un ensemble de solutions qui concernent tout le monde, en fait. Tout le monde est concerné. Faut pas dire c'est à cause des propriétaires ou c'est aux propriétaires d'eux. C'est les propriétaires qui doivent faire aussi des efforts, la collectivité qui doit les accompagner, l'État qui doit aussi nous accompagner sur un certain nombre de dispositifs. La solution, elle est globale, quoi.
Pour revenir à l'avenir aussi, est-ce que vous attendez malheureusement à ce que ça recommence, que ça soit à Baugé ou même dans le Maine-et-Loire? Ou est-ce que vous pensez que c'est un épiphénomène et que c'est triste à dire, mais il faut avoir
pas
chance?
C'est pas un épiphénomène. Faut sortir de cette idée en disant ça ne se reproduira pas. Moi, j'ai enregistré ce qui s'appelle les pompiers, la règle des 3-30. Plus de 30 degrés, plus de 30 km/h et moins 30 d'hydrométrie. La moindre étincelle, si j'ose dire, un mégot jeté, tout ça, ça peut repartir et ça peut partir très très vite. Même là où ça a brûlé, il y a des endroits où qui étaient intacts, rien ne permet aujourd'hui de dire que ça reprendra pas là-bas. Et puis, on a des étés qui vont être de plus en plus secs, hein, donc réchauffement climatique. Moi, j'invite les climato-sceptiques à venir à Baugé en Anjou. Regardez ce qui s'est passé, parce que l'incendie, on le sait aujourd'hui, il n'est pas d'essence criminelle. Il y a une personne qui a été condamnée, mais pour un incendie limité. On sait que ça a pris parce que ça devait prendre, compte tenu des 3-30 que j'ai évoqués tout à l'heure, quoi.
Est-ce que vous vous préparez à ce que... Est-ce que ça se reproduise du coup, malheureusement?
On va se repréparer à être beaucoup plus vigilant dès qu'on va arriver en été, oui, effectivement. Voilà, on a trop subi, là. Faut qu'on en tire des enseignements, c'est ça, quoi. Bon, voilà. On sera vigilant aussi sur les entretiens des espaces. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent nous permettre d'éviter que ça se reproduise, mais moi, je suis absolument pas certain que ça se reproduira pas, quoi. Il y a des secteurs, le Baugeois, et c'est 30% de notre surface qui est en forêt. On n'a pas brûlé 30% de surface. La ville fait, la ville fait 26 000 hectares. Multiplié par 30%, vous voyez qu'il nous en reste fort heureusement beaucoup. Il nous reste plus de 10 000 hectares, presque 10 000 hectares. Il en a brûlé 1 400. Donc on se dit bien que, et quand on regarde ailleurs, on voit bien qu'on a les mêmes phénomènes. Aujourd'hui, si vous voulez, s'il n'y avait pas eu un travail exceptionnel de la part des pompiers et des moyens aériens, le feu était en train de gagner la ville de Baugé, quoi. Et la ville de Baugé, c'est l'agglomération de Baugé, le centre de Baugé en Anjou, c'est 60% de la population qui est là, quoi. Donc avec plein de maisons, etc. Et ça a été très, très difficile, quoi.
Donc on est passé...
Oui, il faut prendre des mesures, ça c'est sûr.
Donc on est passé proche de quelque chose des... Enfin... C'était déjà catastrophique, mais on est passé quand même pas très loin de quelque chose d'encore plus terrible, quoi.
Oui, ça aurait plus de... Bon, alors, l'un des points que je note qui est très satisfaisant, c'est qu'il n'y a pas eu, bien évidemment, de blessés ni de décès. Ça, on a eu des peurs, hein. On a des personnes qu'on n'arrivait pas à identifier, on ne savait pas où elles étaient. Enfin, heureusement, elles n'étaient plus sur le territoire ni dans leur maison. Il y a eu une seule maison d'habitation qui a été détruite, c'était une résidence secondaire. Bon, il n'y a pas eu d'habitation principale, il n'y a pas eu d'exploitation, il n'y a pas... Voilà, il y a eu beaucoup de peur, mais ça aurait pu effectivement encore être pire. Moi, j'étais inquiet quand tous les soirs on vous dit que le feu a pris 200, 300 hectares de plus, on se dit, mais ça va s'arrêter quand, quoi? Le périmètre de l'incendie, c'était 1600 hectares, qui était... Voilà, et on savait que si le vent se levait, parce que le vent a été un ennemi redoutable, le vent a beaucoup soufflé, et si le vent s'était reparti, oui, on aurait brûlé encore davantage d'hectares, ça c'est clair.
Avant de se quitter, est-ce que vous avez un dernier message à transmettre peut-être aux habitants de Baugé, ou même aux habitants du Maine-et-Loire en général?
c'est un message d'espoir. Moi, je dis que sur Beaugéan-Anjou, on a été très solidaires. Cette solidarité, elle a d'ailleurs dépassé les frontières de la commune, hein, puisque les gens de la Sarthe, les habitants du Maine-et-Loire ont fait des dons, sont venus nous voir, nous ont appelés, nous ont relayé les messages, etc. Donc, c'est un message d'espoir. On se dit que confronté à des événements comme ça, c'est pratiquement tout un département qui s'est réuni, ça c'est bien. Maintenant, il faut bien prendre conscience que ça n'arrive pas qu'aux autres, quoi. Et vous voyez, dans ma carte de vœux, je reprends une image du sinistre et je dis que le plus étonnant dans les choses impossibles, c'est qu'elles finissent par se réaliser. Ben, là, c'est des choses improbables qui finissent par se réaliser. Moi, si on m'avait dit que plus de 1400 hectares de bois partiraient en fumée et qu'on aurait l'incendie le plus ravageur des dernières décennies sur Beaugéan-Anjou, je ne l'aurais jamais cru, quoi. Mais voilà, c'est une chose impossible qui s'est réalisée. Donc il faut être prudent, vigilant, essayer d'anticiper quand c'est possible.